du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'audience est ouverte, l'accusé est à la barre, l'humanité, 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'Homo sapiens à vivre à la surface de la Terre. La victime, l'océan mondial, pollué, acidifié, surexploité, cette vaste étendue d'eau salée qui recouvre les deux tiers de la planète fascine et effraie. Nous commençons à mieux connaître son fonctionnement et ses habitants grâce aux travaux scientifiques qui se multiplient. Nous savons désormais que nous lui devons la vie et qu'il est essentiel à l'équilibre climatique de la Terre. L'heure du premier procès du siècle est donc arrivée. Ce procès est le premier d'un cycle qui va se dérouler ici, à Marseille, au MUCEM. Pendant 4 mois, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée organise tous les lundis un procès du siècle. Des délibérations citoyennes sur les excès de nos sociétés contemporaines qui impactent l'animal, le temps, l'espace ou le végétal. Cette semaine, le public doit trancher. Allons-nous reconnaître notre culpabilité dans la détérioration de l'océan et être condamnés à le préserver ? Notre studio est donc installé dans le sud de la France, à Marseille, au MUCEM. Nous avons une superbe vue sur la Méditerranée et le port autonome de Marseille, de quoi inspirer nos deux experts. Nos deux experts qui vont instruire ce procès du siècle sont François Sarano, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes un océanographe plongeur. Vous avez été le conseiller scientifique pour des expéditions dans le monde entier, notamment une vingtaine d'expéditions avec la Calypso du commandant Cousteau. Et avec votre association Longitude 180, vous étudiez en ce moment et depuis de nombreuses années déjà une population de cachalots au large de l'île Maurice. Vous allez nous en parler. Second expert, Philippe Curie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco et l'un des grands spécialistes mondiaux de la pêche. Alors, avant de dresser un rapide état des lieux de l'océan, comme nous sommes dans un procès, j'appelle à la barre un premier témoin.
Oui, bonjour. Non, je me présente, Roger Millot, restaurateur et cuisinier à Sète. Mon restaurant, l'Hippocampe, propose bien entendu la tielle sétoise et une cuisine basée uniquement sur les produits de la mer. La menace de la disparition du thon rouge à Méditerranée m'a fait prendre conscience de certains problèmes écologiques. Je travaille beaucoup avec des pêcheurs locaux et dans le souci du respect autant que faire se peut des équilibres naturels. C'est ainsi que nous proposons rarement du thon rouge, même si j'adore ça. Par contre, nous venons de bannir le saumon. Bon, bien sûr, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, le saumon va encore être servi sur une quantité de tables. L'autre jour, j'ai vu qu'une grande chaîne de distribution proposait du saumon à 9,90€ le kilo. 9,90€. C'est, passez-moi l'expression, se foutre de la gueule du monde. Comment c'est possible? Alors j'ai essayé de comprendre et j'ai fait ma petite enquête. Bon, c'est du saumon d'élevage, ça je le savais, mais ce que je ne savais pas, c'était les conditions d'élevage. Alors on s'insurge contre l'élevage des poulets, des cochons, les fermes aux 1000 vaches, mais c'est pareil, hein. Ce n'est pas 1000 vaches, c'est des milliers de saumons. Des milliers de saumons qui nagent les uns sur les autres. Ah, en fait, c'est pire. Parce que ça, on ne le voit pas. C'est sous l'eau, c'est caché. Par exemple, ils ont des poux que l'on soigne avec des pesticides et on les retrouve dans les déjections des poissons. Et les déjections des poissons, ça peut faire des tas de 15 mètres de haut dans les bassins. Et après, ça se dissout lentement dans l'eau et ça empoisonne tout ce qu'il y a autour. Hein. Et je ne vous parlerai pas de l'alimentation qu'on leur donne. Hein. Des farines végétales et de la farine de poisson. En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ils peuvent trouver plein d'infos sur le net. Hein. Ça sert aussi à ça, le net. En tout cas, ça leur passera l'envie de manger du saumon gravlax hein, pour les réveillons. Bon, qu'il soit d'élevage ou pas, d'ailleurs, parce que le sauvage, ma foi, c'est pas beaucoup mieux. Hein. En plus, il paraît que ça ne va pas s'arranger. L'autre jour, j'écoutais une émission à la radio qui parlait de l'impact de la surpêche et du réchauffement climatique sur les océans. Enfin, tout ce qui touche à la mer m'intéresse. Eh bien, un spécialiste, un professeur dont j'ai oublié le nom, mais bon, c'est pas très important, disait que l'espèce la mieux adaptée au réchauffement climatique, c'était la méduse. Eh oui, la méduse. Et que si on maintenait la vitesse de réchauffement actuelle et le rythme de surpêche, ben c'est tout ce qu'on pourra pêcher dans 20 ou 30 ans. Ah, c'est pourquoi j'ai une suggestion pour le réveillon. Soyez résolument d'avant-garde. Laissez tomber la cuisine moléculaire et tenter de cuisiner la méduse. Par souci d'anticipation, nous avons concocté avec mon équipe une recette à base de méduse qui s'est révélée, ma foi, très goûteuse. Il s'agit d'une blanquette de la mer composée uniquement de méduse au curry avec une pointe de cardamome et de la citronnelle. Bon, prévoyez beaucoup de méduse parce que la méduse se réduit beaucoup, c'est beaucoup d'eau. Donc pour, on va dire, 200 grammes de méduse, prévoyez bien 2 kilos, voire plus, par invité. Et puis bon, si jamais ça ne vous satisfaisait pas et si vous ne vouliez pas vous embêter la vie, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours faire un carpaccio de méduse avec un vinaigre iodé sur un lit de taxifolia. Hein. Une chose est sûre, l'effet de surprise sera assuré. Et en attendant, bonne fête à tous.
Merci beaucoup Eric pour cette lecture. Je précise que ce témoignage a été préparé par les participants au gymnase des orateurs. C'est un atelier régulier proposé au public du MUCEM et l'objectif de cet atelier est double, s'exercer à l'art de la rhétorique et mener l'enquête sur les thématiques du procès du jour. Philippe Curie, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ? Ça vous tente un petit ceviche de méduse,
oui,
pour le réveillon ?
Là, on fait le procès de la méduse. La méduse, c'est je dirais, un symbole, hein, un symbole fort de ce qui est en train d'arriver dans nos océans suite à la surexploitation. Surexploitation qui est quand même chronique dans tous les océans mondiaux, parce que, je vous rappelle, on exploite absolument toutes les ressources mondiales. Les méduses, c'était, vous savez, les habitants du Cambrien. Le Cambrien, c'était flasque, un univers flasque, et puis... Voilà, avec la diversification, la biodiversité, hein, cette biodiversité qui s'est complexifiée au cours du temps, on a eu de moins en moins de méduses. Et les méduses, normalement, ce sont des habitants des océans qui doivent être assez rares, généralement. Alors, bien sûr, on a des petits blooms de méduses au printemps, mais ils ne doivent pas s'installer dans les océans comme ils le font parfois aujourd'hui. Et vous avez des exemples... aujourd'hui, qui sont documentés en Namibie, dans la mer Noire, même en Méditerranée, où la surexploitation de tous ces gros poissons et des poissons a conduit, ou même des poissons, ce qu'on appelle pélagiques, c'est-à-dire sardines des anchois, ont conduit au fait que donc ces poissons qui mangeaient en réalité les œufs et larves de méduses, donc à des surabondances de méduses, et on arrive même à des écosystèmes qui sont colmatés de méduses. C'est-à-dire, par exemple, en Namibie, vous avez 20 à 40 millions de tonnes qui sont là et qui sont là de façon durable depuis les années 80-90. Donc, qu'est-ce qu'on pêche ? On pêche de la méduse. Alors, la méduse, on vous l'a dit, le restaurateur, je ne sais pas comment il s'y prend, mais quand il met ça dans sa poêle, ça doit vite fondre parce que c'est 95% d'eau, donc il ne doit pas rester grand-chose. Les Chinois en mangent des grandes quantités, 500 000 tonnes, mais c'est des condiments.
Mais en tout cas, est-ce qu'il faut se préparer à manger des méduses parce qu'on surexploite trop ?
Oui, je pense qu'on peut très bien inverser ces choses-là et gérer les ressources. Hein, il y a des endroits dans le monde où on gère les ressources et on arrive à éviter ces invasions de méduses. Donc voilà, on peut très bien maintenir les écosystèmes. C'est de l'intérêt d'ailleurs dans la gestion des ressources renouvelables, c'est de maintenir la complexité des écosystèmes. Et ça, c'est aussi une voie qu'on pourra discuter plus avant, maintenir la diversité du milieu marin.
Et si on continue à surexploiter l'océan comme aujourd'hui, certaines études scientifiques prouvent qu'il y aura quoi, en moyenne 20% de stock de poissons. Je sens qu'à ce mot, François Sarano, sur ma droite, frémit, mais 20% de stock de poissons en moins.
Ce qu'il y a aujourd'hui, les chiffres donnés par les Nations Unies, c'est quoi ? C'est 30% de stocks surexploités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on abaisse les populations à des niveaux extrêmement bas, disons en dessous de 20%. C'est-à-dire quand il y avait 5 poissons, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et la plupart des stocks aujourd'hui sont pleinement exploités. Et ça aussi, pleinement exploité, ça veut dire descendre au-dessous de 50%, 40%. Donc quand il y avait 2 poissons, autrefois, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Donc voilà, donc en termes de productivité des océans, c'est diminuer la productivité des océans, mais c'est aussi modifier, c'est ce qu'on vient de dire avec les méduses, le fonctionnement des écosystèmes. Et c'est ça peut induire des dynamiques graves pour la productivité.
François Sarano, comme vient de le dire Philippe Curie, ce qui est en cause, ce n'est pas uniquement le poisson que l'on mange, évidemment. Hein. C'est tout le fonctionnement d'un écosystème extraordinaire qu'est l'écosystème océanique.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une espèce ne se limite pas à sa morphologie. Une espèce, elle se définit par les interactions, les interdépendances qu'elle tisse avec les autres espèces et le milieu. Par conséquent, quand on supprime une espèce, ou qu'on diminue ses populations au point qu'il ne reste que quelques individus, toutes les autres espèces sont affectées, parce qu'elles ont des liens avec elles. Soit qu'elles la mangent, soit qu'elles sont mangées, soit qu'il y a du parasitisme, soit qu'il y a du nettoyage, enfin bref. Et donc, ces interconnexions qui tissent la toile du vivant, qui font que le vivant est résilient et qui est solide, eh bien, elles s'amenuisent petit à petit. Et la toile du vivant s'effiloche. Et nous sommes l'un des fils, nous les humains, de cette toile du vivant. Et je dirais presque l'un des fils de cette toile du vivant. Donc si nous n'y prenons garde, nous allons à ce point déchirer cette toile que nous allons tomber nous-mêmes. Mais on insiste là sur quelque chose qui est vital, ce qui me paraît moi très grave, beaucoup plus que tout ça, c'est que nous savons ça depuis 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nous agissons en conscience, librement, en toute responsabilité. Autrefois, on a fait disparaître des espèces. Autrefois, nous agissions de façon inconsidérée. Parce qu'on ne savait pas vraiment, on n'avait pas vu la planète depuis les satellites, la toute petite planète bleue sur laquelle nous sommes tous embarqués, toutes les créatures vivantes. Bon, on pouvait dire, nous étions inconscients. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un phénomène qui dit « Vous, les humains, vous agissez en conscience ». Et c'est là où ça me paraît très grave. Parce que c'est bien de notre responsabilité dont il s'agit. Et nous, les sapiens, qui revendiquons ce titre de sapiens, avec lui tombe une chose, qui est cette responsabilité. Parce que nous savons, les autres espèces ne savent pas, les anchois ne savent pas, les méduses ne savent pas, les cachalots ne savent pas. Nous, nous savons. Et donc cette responsabilité qui est en même temps liée à notre liberté, elle fait notre humanisme. Et nous nions ce que nous sommes ou ce que nous revendiquons être en effaçant délibérément, consciemment, certaines espèces de la planète.
Bembaya Jazz National, Mami Wata dans C'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, au Mucem, pour la première édition du Procès du siècle, un cycle de conférences pour mettre en cause les excès de nos sociétés contemporaines et leurs impacts. Aujourd'hui, l'accusé est l'humanité, la victime est l'océan. Voici un deuxième témoin, Frédéric Lemanac, de l'association Bloom, nous détaille la guerre que se livrent les navires de pêche au large du Sénégal et de la Mauritanie.
Il y a une guerre en cours parce qu'effectivement, ce sont des zones qui sont très productives et tout le monde le sait. Donc tout le monde y va, soit légalement au travers d'accords de pêche qui sont établis par exemple entre l'Union européenne et certains pays africains sur la côte ouest ou même sur la côte est, soit illégalement parce que malheureusement il y a quand même assez peu de moyens de surveillance et de contrôle dans ces eaux-là. C'est déjà très compliqué de surveiller dans les eaux françaises, mais au large de l'Afrique c'est encore plus compliqué. Donc on a beaucoup aussi de navires asiatiques, russes, qui vont pêcher de manière illégale dans ces eaux-là. Et actuellement, on voit vraiment le développement aussi de la pêche qu'on appelle minotière, c'est-à-dire pour fabriquer de la farine et de l'huile pour l'aquaculture. Et ça, c'est en plein boom actuellement en Mauritanie, par exemple, au Sénégal, où on a notamment les Chinois qui investissent massivement dans les usines de transformation. Parce que tous les petits poissons comme les sardinelles qui vont être pêchés dans ces eaux-là, très productives, vont ensuite servir soit à élever des carpes en Chine, soit à élever du saumon en Norvège. Et c'est une activité qui est extrêmement lucrative. Depuis quelques années, il y a vraiment eu un basculement. Donc là, on n'est plus à de la consommation principalement sauvage. On est passé à de la consommation principalement d'aquaculture. Voilà, il faut quand même savoir que quand on consomme un poisson qui a été élevé, c'est un poisson qui a été nourri aussi en grande partie avec du poisson sauvage. Donc on voit souvent l'aquaculture comme une solution à la surpêche. L'aquaculture peut en réalité contribuer à la surpêche également. Au large du Pérou, vous avez plusieurs millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année là-bas. Et ça a représenté à un moment jusqu'à 10% des captures mondiales de poissons. Simplement au large du Pérou. Vous avez aussi l'Afrique de l'Ouest, qui est une grosse zone de pêche minotière. Et vous avez l'Atlantique Nord-Est, par exemple, le Danemark. Là, il y a une pêche qui a été certifiée pêche durable. Donc, on peut discuter aussi de ça, de ce que veulent dire ou non les labels de pêche durable. Mais une pêche danoise qui certifie 600 000 tonnes de poissons qui sont réduits en poudre pour l'aquaculture. 600 000 tonnes, c'est plus que le total de la pêche française chaque année.
Philippe Curie, vous connaissez bien cette zone. Comment est-ce que vous mettriez en perspective cette pièce à conviction en tant qu'expert à ce procès ?
J'ai commencé ma carrière en 1980, ça remonte à longtemps, au Sénégal. Au Sénégal, et où les pêches artisanales étaient extrêmement efficaces et on pêchait beaucoup de poissons démersaux. C'est quoi les poissons démersaux ? Ce sont les gros poissons, ce sont les mérous, les capitaines, des poissons qui font 1 mètre, 1 mètre 50. Et j'ai travaillé pendant 4 ans et je me suis dit, mais l'océan est inépuisable. Et on n'a pas vu venir, on était un centre de recherche extrêmement dynamique, on n'a pas vu venir cette surexploitation. Alors ce qui s'est produit, c'est que ces poissons démersaux qui représentaient 80% des captures, aujourd'hui, ils représentent péniblement 20%. Donc, quand on pêchait, quand on ramenait, vous voyez, dans chaque pirogue, il y avait entre 5 et 80 mérous. Hein. Il y avait 3000 pirogues. Aujourd'hui, il y en a 15 000. On pêchait 5 000 tonnes. Et aujourd'hui, on en pêche 50 tonnes. Donc voilà, ces gros poissons ont disparu. Alors sur quoi maintenant pêchent les Sénégalais ? Ils pêchent des sardinelles. Des sardinelles qui servent à l'alimentation, puisque c'est la protéine la moins chère de toutes les protéines animales. C'est la sardinelle qui est séchée sur le sable. Et vous voyez par satellite, d'ailleurs vous voyez sur les cartes satellites, des zones entières de désert couvertes de sardinelles qui sont en train de sécher. Or maintenant, avec cette transformation, ce marché mondial chinois notamment de farine de poisson, les Chinois ont construit une quarantaine d'usines au Sénégal. Et donc c'est une pompe aspirante absolument fantastique de protéines bon marché. Et aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que le Sénégal a pu tellement accès à cette protéine pas chère. Alors vous savez, il y a des coins dans à Dakar, par exemple, ou la sécurité alimentaire des enfants, notamment dans des zones vraiment pauvres. J'ai demandé et j'ai fait une petite enquête. Ils mangeaient ces sardinelles qui étaient séchées par les femmes et qui étaient très bon marché. Et aujourd'hui, le midi, au lieu de manger un sandwich à la sardinelle, ils mangent un sandwich avec des nouilles dedans. Donc vous voyez qu'à moyen et long terme, même à court terme, ça pose des problèmes de sécurité alimentaire extrêmement aigus. Voilà. Cet exemple reflète le cas du siècle. C'est-à-dire que on a, dans les pêcheries mondiales, on a fait croire à la durabilité des pêcheries en allant pêcher toujours d'autres espèces, en allant pêcher plus loin, en envoyant nos flottilles en Afrique, en pêchant plus profond, en pêchant d'autres espèces. Donc on a donné le sentiment que finalement cette exploitation a été durable sur le long terme, mais c'était, vous savez, une espèce de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que ça s'écroule à un moment donné, on ne peut pas maintenir ces captures, même en ayant des astuces qui font croire aux consommateurs que c'est durable. Ce qui se produit, c'est que aujourd'hui, depuis les années 90, en réalité, les captures mondiales elles diminuent. Donc, on a eu un plateau à 100 millions de tonnes autour des années 90. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années ou trentaine d'années, on perd chaque année plus ou moins 1 million de tonnes.
François Sarano, vous partagez ce constat du casse du siècle ?
Complètement. Mais je crois que nous, les consommateurs, sommes la cause du casse du siècle. Parce que nous, consommateurs européens, exigeons toujours plus de poissons, moins cher. Et comme on est dans un monde où l'économie est non pas libérée, mais dérégulée, ce qui est la négation de toute règle sociale et environnementale, nous poussons les pêcheurs qui, en définitive, font passer les poissons de l'océan dans nos assiettes. Hein, et c'est nous, encore une fois, qui sommes la pompe aspirante. Eh bien, nous poussons les pêcheurs à pêcher toujours plus en guerre. Nous poussons les pêcheurs en guerre économique. Le premier pêcheur qui va dire « Oula, attendez, on a assez pêché pour cette année, il faut laisser des poissons pour qu'ils se reproduisent », c'est un autre pêcheur qui prend sa place. On a vu ça même chez nous, en Bretagne, un certain nombre de pêcheurs très vertueux.
On voit bien le conflit qu'il y a avec l'Angleterre en ce moment, par exemple,
exactement.
Pour les quotas de
C'est-à-dire
pêche.
Que le système qui a été mis au point autrefois par l'OMC, les accords du GATT, qui ont de plus en plus dérégulé l'économie, fait qu'aujourd'hui, les pays riches, nous sommes la pompe qui aspirons les ressources en poisson de la planète. Et comme le disait très bien M. Curie, on nous laisse croire à nous que tout va bien. Mais on est en train de piller les eaux du tiers-monde, affamer un certain nombre de gens et les écosystèmes. Parce qu'ici, on évoque les gens qui ne peuvent plus manger. Mais les dauphins, les requins, les mérous qui se nourrissaient de ces sardinelles, les oiseaux, ils n'ont eux aussi plus à manger. Et là encore, je ne fais que répéter ce que le professeur Curie disait il y a 2 minutes, quand on laisse libre la nourriture aux méduses, elles prennent la place. Si on enlève les sardinelles, les méduses, je prends la place. Ce qui fait que nous, encore une fois, j'insiste, responsables. Et je dirais une dernière chose, le premier article de l'Europe pêche bleue, l'Europe bleue, c'est de satisfaire le marché européen. Et ce marché européen est en croissance de 1,5 par an. Ce qui veut dire que, comme le gâteau est fini, en gros 90 millions de tonnes par an dans le monde, on prend toujours plus, on détourne ces millions de tonnes vers nous, le marché chinois et le marché américain, et c'est fini. On ne peut pas aller plus loin, voilà. Et ça, c'est bien notre responsabilité. Ce qui veut dire que maintenant, encore une fois, que nous savons, chacun sait, il ne pourra pas dire « je ne sais pas », nous devons changer. Et nous devons savoir que chaque fois que nous mangeons du poisson, c'est une denrée rare, exceptionnelle. Il faut surtout regarder ça comme si c'était du caviar. Voilà. Et penser à ce qu'on mange, penser à ce qu'on fait.
Alors justement, nous, les consommateurs, que pouvons-nous faire ? Nous en parlons juste après Dominique A, qui chante l'océan.
« entendais de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine qu'on n'aurait quand plus tard il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines. L'océan.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, au Mucem, pour la première édition du Procès du siècle, un cycle de conférences pour mettre en cause les excès de nos sociétés contemporaines et leurs impacts. Aujourd'hui, l'accusé est l'humanité, la victime, l'océan. Troisième pièce à conviction pour instruire ce procès, une vidéo avec vous, François Sarano. Alors c'est bizarre, vous me direz, une vidéo à la radio, mais je vous propose d'écouter le début et vous nous raconterez la suite.
Le sommeil des cachalots et demi-conscients. Ils savent parfaitement que nous sommes là. Et pourtant, et j'insiste, parce que nous venons en paix, avec respect et bienveillance, ces animaux sauvages, libres, indomptés, nous accueillent. Alors, je m'avance et tout d'un coup, je suis juste au-dessus du crâne de Irène Gueule Tordue, la matriarche du groupe. Irène dort. René Euzé, le caméraman, est à côté d'elle. Elle sait qu'il est là. Parfaitement. Vous voyez ici sa mandibule tordue. Voilà pourquoi elle s'appelle Irène Gueule Tordue. Et je descends derrière, juste pour vérifier qu'effectivement, elle a un œil ouvert et un œil fermé. Et cet animal sauvage et libre qui nous a tant craint quand on l'a chassé, lorsqu'on l'approche avec respect, non seulement il vous tolère, encore une fois, dans ce moment, vous vous imaginez un animal sauvage venir à côté de vous alors que vous êtes en pleine sieste? Cette image-là, pour moi, me bouleverse parce que ça montre que la réconciliation est possible, que nous pouvons faire l'effort du respect pour que notre relation avec le vivant change.
Voilà, François Sarano, nous avons plongé un bref moment avec vous, avec Irène Gueule Tordue, qui fait partie de cette famille de cachalots que vous suivez au large de l'île Maurice. On en profite pour saluer nos auditeurs de l'île Maurice au passage. C'est par l'émerveillement, à votre avis, qu'on va pouvoir se réconcilier avec la biodiversité de l'océan ?
Je crois, parce que les chiffres sont nécessaires, les études scientifiques sont indispensables, mais les chiffres sont secs, ils ne parlent pas au commun des mortels, ils ne touchent pas. Si je vous dis 90 millions de tonnes, 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, vous restez indifférent. Et donc, il faut utiliser d'autres récits, d'autres formes de langage pour que les gens se rendent compte de la vie qu'il y a autour d'eux. Il faut se reconnecter au vivant. Et une des manières, c'est de raconter des histoires et puis d'entraîner les gens sur le terrain, aller voir, aller toucher du doigt. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent dans des cités, qui sont coupés dans un monde totalement virtuel, sont des gens hors sol, qui ne savent même plus le monde des oiseaux, des arbres ou des poissons. Quand j'étais enfant, moi, il y avait des chardonnerets, des rosserolles et farvates, il y a des pinsons. Aujourd'hui, à peine, il y a oiseaux.
Mais là, notre studio est installé face à la Méditerranée. La difficulté de l'océan, c'est qu'on voit à perte de vue une surface plane et tout le monde n'a pas, comme vous, la chance d'aller dessous.
On ignore parce qu'on ne prête plus attention. Et je crois que l'une des clés, c'est d'amener chacun à prêter attention à ceux, c'est eux, et ceux, C-U-U-X, qui nous entourent, et à leur redonner un nom et une singularité, à changer de temps, de rythme de vie, et à dire le matin, en regardant autour de soi, bonjour. Ça a l'air d'être très loin des océans, pas du tout. Si je dis bonjour en pensant à ce que je dis, que je regarde autour de moi, les arbres, les oiseaux, c'est plus facile que regarder sous la peau de l'océan. Eh bien, ça me permet de me reconnecter au monde et de me dire je fais partie de ce monde. Je suis différent, bien entendu, mais je suis moi parcelle de vivant aussi. Alors, après ça, pour nous, les plongeurs, qui sommes les témoins privilégiés de ce qui se passe sous la surface de l'océan, c'est plus facile de savoir ce qui s'y déroule. Et je comprends que 99,9% des gens qui n'ont pas l'occasion de mettre un masque et d'aller voir, tout ça soit une formidable boîte noire. Hein. Et même nous, scientifiques, plongeurs, nous ignorons la plupart des choses qui se déroulent dans cette formidable masse qu'est l'océan. Mais je pense que globalement, c'est notre attention aux autres qu'il faut changer. Que ce soit pour les animaux de l'océan, ou les animaux et les végétaux, et en tout cas toutes les autres créatures autour de nous, à terre.
Philippe Curie, est-ce que vous pensez que l'émerveillement est une solution ?
Ce qu'a dit François est très, très important. Il faut se reconnecter au vivant. Il faut l'homme, l'humain, dans la nature et non pas et la nature. Donc c'est important. Alors est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas. Parce que comme vous l'avez noté, il y a cette difficulté d'appréhender aussi les changements. C'est difficile. C'est difficile de comprendre le fonctionnement du vivant, de voir sa complexité, de voir ses évolutions. Mais là, on a une chance absolument incroyable, c'est qu'on a des rapports faits par les scientifiques qui s'appellent des rapports de consensus, où les scientifiques essaient d'élaborer un peu un consensus entre ce qu'ils savent, qui sont les rapports du GIEC sur le climat, donc qui nous donnent aussi des perspectives sur l'évolution de notre climat dans le futur, et puis du vivant aussi, de l'IPBS. L'IPBS, qui est un rapport qui est produit et qui nous dit ben voilà, l'évolution du vivant. Donc c'est important de prendre, d'avoir ces formations. Et là, la formation est tout à fait clé, la formation des jeunes là, dans les écoles, et puis la formation de nos élites. Nos élites, généralement, n'ont aucune formation sur l'environnement, sur le climat. Alors, on peut lire des articles à droite, à gauche, mais c'est, je peux vous dire que c'est vraiment compliqué à aborder.
Et après, ça dépend ce qu'on appelle élite. Par exemple, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a un article qui a été publié qui dit que 100 multinationales vivent de 60% des revenus tirés de l'océan. Donc, alors, on les connaît.
Il y a ça, il y a aussi la concentration du pouvoir. Ça veut dire quoi, le pouvoir ? C'est la faculté à pouvoir changer aussi les orientations économiques, les transitions écologiques, sociales, économiques. Et là, il y a un rapport qui a été fait avec les ODD, les Objectifs du Développement Durable, qui définissent ce que c'est qu'une société, une vie possible dans le futur, avec toutes ses composantes, que ce soit l'équité, la pauvreté, la biodiversité, etc. Et ces rapports, ils insistent sur quoi ? Ils insistent d'une part sur l'urgence, il y a urgence, parce qu'on le voit bien, tous les indicateurs ne sont pas bons, sur l'interaction entre ces objectifs, c'est-à-dire, on peut très bien avoir des océans en pleine forme si tout le monde meurt de faim ou c'est la guerre généralisée, ça le fera pas. Et le pouvoir. Donc ça, c'est aussi le privé, les multinationales. Et il y a le chiffre que vous avez mentionné, c'est-à-dire que vous avez 100 multinationales qui tirent 60% des revenus qui sont produits par les océans. Donc là, on a une concentration du pouvoir absolument gigantesque. Ce qui veut dire qu'on ne fera pas ces transformations dont est nécessaire sans ce secteur-là. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc il faut qu'ils en prennent conscience, il faut qu'ils aillent vers des solutions beaucoup plus durables, économiques, sociales et environnementales.
Est-ce qu'il faut manger moins de poissons? Vous avez une dernière pièce à conviction, c'est une boîte à macro que vous avez apportée.
J'ai amené ma boîte à macro. Alors, il ne faut pas manger d'espèces qui sont surexploitées, ni qui sont sur la liste rouge de l'IUCN. Je veux dire, c'est un
non-sens. International pour la conservation de la nature, qui vient de publier sa dernière liste.
Qui vient de publier, et où il y a des espèces. Bon, il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont en grand danger, d'espèces de raies, etc. Quel plaisir on a à manger une espèce menacée. Vraiment,
mais encore faut-il le savoir, François Sarano, c'est ça la difficulté.
Notre association Longitude 181 a une campagne qui s'appelle « Pas de requin dans mon assiette ». Elle est destinée aussi aux restaurateurs et aux pêcheurs. Pas de requin sur mon bateau. On travaille avec des pêcheurs en Algérie. On a mis partout les requins à préserver pour qu'ils remettent à l'eau, quand ils sont encore vivants, les espèces qui sont aujourd'hui en danger critique d'extinction en Méditerranée. Elles le sont presque toutes, les espèces de requins et de raies. Donc, il faut, je crois, constituer un socle de citoyens sur lequel les mesures qui devront être prises vont pouvoir s'asseoir. Nous, les consommateurs, avons la clé. Parce qu'il est bien difficile de faire bouger des multinationales. En revanche, si le consommateur ne tire pas, n'appelle pas la demande, ne consomme pas telle ou telle chose, alors elle se réoriente. Et puis surtout, je pense que quelle que soit l'action au niveau des autorités, ça a un sens de se donner un sens dans sa vie, de faire quelque chose, de savoir que c'est nous qui sommes responsables. Moi, je ne veux pas avoir dire à ma petite fille, ouais, quand j'étais chez Cousteau, j'ai nagé avec le grand requin blanc, avec le crocodile de mer, avec les raies manta, avec les baleines, les cachalots. Je suis désolé, je ne peux pas te les transmettre. Je les ai bouffés. Pire, je savais, encore une fois, depuis 1992, le sommet de la Terre à Rio, tous les chefs d'État ayant signé la feuille de route Agenda 21, nous savons comment les choses se passent. Nous savons les causes du désastre, nous savons les remèdes à y apporter. Donc, encore une fois, nous le faisons en connaissance. Je ne veux pas avoir dire ça à ma petite fille. Par conséquent, on avance, on s'engage, on essaye de demander aux gens de se reconnecter et à chacun, juste après cette émission, s'il vous plaît, décidez de changer une chose, une toute petite chose que vous allez pouvoir tenir. Et ces petites choses vous amènent à vous libérer formidablement et à savoir que le changement est possible. Et la dernière chose que je veux dire, pensez pour qui vous faites ça, à qui c'est destiné. Moi, je pense à ma petite fille, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que le changement, si vous ne savez pas pour qui le faire, vous ne pouvez pas le faire. Le changement sera altruiste ou il ne sera pas. Si on pense à ces petits égoïsmes, c'est foutu. Donc, pensez à ceux que vous aimez, c'est pour eux que vous le faites. Et après, soyez contagieux.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose. Une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon,
c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Marseille dans le sud de la France au Mucem pour la première édition du procès du siècle, un cycle de conférences pour mettre en cause les excès de nos sociétés contemporaines et leurs impacts. Aujourd'hui l'accusé est l'humanité et la victime l'océan. Nous sommes avec deux experts pour instruire ce procès. Nous avons utilisé plusieurs pièces à conviction. Maintenant messieurs, j'ai envie de dire c'est l'heure du verdict. Alors Philippe Curie, coupable ? Non coupable, l'humanité ?
Non, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut se mobiliser, point final. Vous savez, là, ce casse du siècle, c'est celui de la destruction de la biosphère, de la nature. Et cette nature, c'est quoi ? C'est presque rien. C'est une petite épaisseur sur la surface de la Terre de 50 km. Imaginez-vous, dans l'univers tout entier, vous avez la Terre, qui est quand même une hospitalière en son centre, mais il y a juste cette petite couche de 50 km qui comprend les océans et le milieu terrestre et le climat,
l'atmosphère,
tout ce qui nous fait vivre. Donc voilà, ça c'est un bien commun précieux qu'il faut admirer et qu'il faut préserver. Voilà, donc il faut qu'on se mobilise et puis qu'on change de ce développement économique complètement irrationnel et un peu surréaliste. On peut construire 8 milliards de voitures, 50 milliards, on sait faire. Mais maintenant, ça va nous donner un autre idéal dans la vie, je veux dire, qui va nous unir. Donc voilà, donc c'est aussi ça, c'est ce grand projet. Et puis finalement, vous savez, une fois qu'on aura changé, ben on se dira, mais on était complètement fous de faire comme ça. Et puis voilà, ça peut très bien se faire et se faire sans trop de heurts.
Donc coupable, mais avec des travaux d'intérêt généraux pour créer une nouvelle civilisation.
Exactement, des travaux d'intérêt généraux. Voilà.
François Sarano, coupable, non coupable, circonstances atténuantes ou pas ?
Coupable et responsable avec bonheur, un infini bonheur. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'océan est quand même résilient. Et que chaque fois qu'on prend des bonnes mesures, une réserve marine, et Dieu sait si on en a une qui est pas très loin, toute petite, minuscule, Port-Cros, et on retrouve une Méditerranée qui était celle qu'on connaissait dans les années, 50, c'est formidable. Et dès qu'on prend des mesures spécifiques, les cachalots, les cétacés, c'est formidable. On a arrêté la chasse en 80. Aujourd'hui, les cachalots qui nous fuyaient, moi quand j'étais sur la Calypso, on ne pouvait pas nager avec les cachalots. Ils nous fuyaient, ils entendaient le bateau, ils partaient. Aujourd'hui, on se met à l'eau et c'est eux qui viennent. Ils vous accueillent, ils viennent vous voir. C'est merveilleux. Toutes ces petites choses montrent que c'est possible. Oui, c'est possible. C'est réjouissant. Ça vaut donc la peine de se battre. Rejoignez les associations, lisez les rapports du GIEC, lisez les rapports d'experts. Et s'ils sont trop compliqués, faites confiance aux associations qui se battent, rejoignez-les. Parce que quand on joue, on gagne à tous les coups à ce jeu-là. On gagne à tous les coups. Donc c'est possible, nous pouvons offrir à nos enfants, très facilement, une mère plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui.
Et puis Philippe Curie, c'est un enjeu de justice sociale, parce que finalement, c'est comme pour le changement climatique, hein, la biodiversité, ce sont toujours les pays riches qui se gavent et les pauvres qui payent l'addition.
Oui, bien évidemment, le système économique actuel engendre des inégalités de plus en plus criantes, avec des concentrations de pouvoir qu'on a mentionnées. Donc voilà, donc il y a un monde, et ça c'est l'ODD numéro 13, plus équitable.
Objectif du développement durable.
Développement durable, c'est un des grands objectifs de l'humanité.
Et donc avec plus de résilience, de conscience, on peut mieux répartir, vous pensez, la biodiversité à l'échelle de l'océan ?
Bien sûr, et puis, puisqu'on parle des ressources marines, vous voyez, aujourd'hui on importe 90% en Europe de nos poissons blancs. Donc tous les poissons qu'on consomme, le morue, etc.
Qui ailleurs.
Voilà, qui vient d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a aussi un problème de répartition de ces richesses. Et c'est tout simplement un problème de survie, parce que vous savez, qui va être impacté le plus par le changement climatique, c'est toute la zone intertropicale qui déjà va souffrir de l'impact du changement climatique. Qui fait fuir les poissons d'ailleurs vers les pôles. Et donc voilà. Donc si on ne traite pas ce sujet-là en priorité, je dirais que les autres objectifs sont irréalisables.
François Sarano, vous qui faites de nombreuses conférences pour sensibiliser, justement. Est-ce que vous sentez que tous les milieux sociaux sont concernés, qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas pour l'instant uniquement un problème élitiste ?
Certainement pas, mais il se trouve que le dérèglement de notre consommation qui cause tant de tort à la planète est explosif. Donc nous ne voyons pas qu'il y a aussi une explosion de prise de conscience. On voit aujourd'hui des tas de jeunes qui essayent de vivre autrement. Moi, je vois mes filles, Maud, Marion, qui réfléchissent à leur consommation, qui réfléchissent à comment tisser des liens avec les autres.
Oui, mais si je puis me permettre, ce sont vos filles.
Oui,
vous voyez ce que je
veux
dire. Elles sont tombées un peu dedans quand elles étaient petites, quoi.
Je crois pas. C'est elles qui m'ont botté les fesses. Pardon, je suis sûr d'une chose. C'est en allant sur le terrain, c'est l'océan, moi, qui m'a botté les fesses. J'ai fait comme tout le monde, hein. Quand j'étais gamin, j'ai pêché des poulpes dans les années 50-60, et c'était juste une chose. Hein.
On Il paraît que le commandant Cousteau pêchait
Mais bien
avec
entendu,
plaisir.
On ne peut pas sortir un fait de la culture générale, de l'ambiance générale, comme on ne peut pas sortir une espèce d'un écosystème, on ne peut pas sortir un fait d'une époque. Bon, voilà, il n'y a pas à juger. Il y a aujourd'hui à dire, on ne peut plus faire ça, et surtout à se rendre compte que c'est notre bonheur de demain, notre richesse de demain, le bonheur de nos enfants, que de tisser des liens nouveaux entre nous, les humains, et avec toutes les autres espèces qui nous entourent. Elles ne sont pas à notre égale, hein. Attention, je ne veux pas dire que ces pins parasols qui sont là ou ces pins maritimes qui sont là soient comme nous, sont comme nous. Mais si nous avons de l'égard, il faut qu'on ait de l'égard, de la considération pour les autres êtres vivants, et que nous pensions à chaque fois, est-ce qu'il est bon que je prélève sa vie ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est équitable ? Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous faisons sur cette planète et comment, encore une fois, être mieux avec moins et plus de relations. C'est indissociable. Aujourd'hui, pourquoi souvent on consomme ? Parce qu'on est dans un mal-être existentiel terrible et donc on se rue dans les magasins pour acheter des choses en espérant trouver une sorte de plaisir. Il suffit donc de retrouver du lien entre nous, pour ne plus avoir à consommer excessivement.
Philippe Curie, le mot de la fin ?
Ce qui va caractériser le XXIe siècle, c'est, et la nouvelle génération, c'est qu'on va penser le futur. Homo sapiens n'a jamais été fait, son cerveau n'a jamais été fait pour penser le futur. Il était dans le quotidien, il surreprésentait le présent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pense ce futur, ce futur qui désirable et durable. Et ça, c'est tout l'enjeu.
Voilà, verdict donc de ce procès. Coupable, mais condamné à penser le futur avec bonheur.
On peut mieux faire. On peut mieux faire.
Eh bien voilà, ça sera la conclusion. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à ce procès du siècle. Les procès du siècle, c'est tous les lundis soirs à Marseille, dans l'auditorium du MUCEM à 19h jusqu'à fin mars. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez à réagir à l'émission par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
Des questions ? Des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Une semaine d'actualité.